Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
C'est dans une semaine tout juste que débuteront les JMJ de Rio. À cette occasion, nous consacrerons une bonne part de notre magazine aux jeunes. Nous verrons tout d'abord comment les jeunes Français en particulier se sont préparés à ce grand voyage au Brésil. Une autre aventure concernant toujours des jeunes, celle au long cours de deux jeunes mariés qui ont décidé en début d'année de traverser toute l'Europe et l'Asie à la rencontre de couples appartenant à différentes religions. Nous ferons le point avec eux à mi-parcours. Le Bangladesh, secoué par des manifestations de partisans d'un parti islamiste, nous verrons que les derniers incidents n'ont rien de surprenant. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Rio de Janeiro, les JMJ, le début approche, c'est mardi prochain, mais pour les centaines de milliers de participants, la fête a déjà commencé puisque les jeunes sont sur place pour participer à la semaine missionnaire aux quatre coins du Brésil. Parmi eux, 5500 Français. Partir comme cela, traverser l'Atlantique, ce n'est pas une mince aventure. Cela fait plusieurs mois qu'au niveau national, on prépare ce pèlerinage. Chaque groupe diocésain a été soutenu, ainsi que les groupes issus des communautés au mouvement, soit en tout 90 groupes. Sur place, ils sont encadrés par 22 évêques. Ils se sont donc préparés avec ferveur à rencontrer les Brésiliens et leur culture. Quant à la préparation spirituelle et pédagogique, elle a été centrée autour du thème « Aller par toute la terre et faites des disciples ». Olivier Tosserie, qui suivra sur place les JMJ pour nous, s'est entretenu avec sœur Nathalie Bécard. Elle est la responsable du service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations qui chapeaute les JMJ pour la conférence des évêques de France. Elle revient tout d'abord sur les particularités de ces journées mondiales de la jeunesse de Rio.
Pour les Français, je dirais qu'il y a plusieurs choses. C'est vraiment d'abord qu'on va dans un autre continent, avec vraiment une autre culture, une autre église. Donc c'est vrai que nous, on a beaucoup insisté dans la préparation à se préparer. C'est pas la même chose d'aller vivre des JMJ en Amérique latine qu'en Europe ou en Espagne. Donc il va y avoir quand même, un choc culturel ou une découverte beaucoup plus grande. Donc ça va beaucoup marquer ces JMJ-là pour les Français, le fait d'être sur un autre continent. Et puis bien sûr aussi, ce qui va être très nouveau cette année, c'est le fait qu'on aura un nouveau pape, le pape François. Ça va être son premier voyage, sa première rencontre, même s'il a déjà rencontré beaucoup de jeunes dans ces audiences Place Saint-Pierre, mais ça va être vraiment le premier temps fort du pape avec les jeunes je crois que ça va être aussi très fort pour beaucoup.
Vous avez noté un effet pape François sur les inscriptions ?
C'est difficile à dire, je pense qu'il y a forcément un petit effet ou en tous les cas ça contribue aussi à enthousiasmer les jeunes pour partir. C'est vrai que nous en France les inscriptions étaient déjà en grande partie faites avant l'élection du nouveau pape, donc c'est difficile de mesurer ça. Mais en tous les cas, c'est vrai que la communication à partir de l'arrivée du nouveau pape a mis en avant le fait que ça serait les premières JMJ du nouveau pape.
Quel est le portrait robot du pèlerin type ?
On sait qu'en moyenne, là, les jeunes Français, ils ont 25 ans. On a un peu plus de filles que de garçons. Après, c'est vrai que c'est quand même globalement, comme c'est des JMJ lointaines, des jeunes qui sont déjà bien engagés dans l'église. Un certain nombre ont déjà fait Madrid, d'autres, ça va être la première fois qu'ils partent au JMJ de Rio. Il y a des diocèses qui ont fait le choix vraiment d'une délégation en appelant des jeunes. Donc en général, c'est des jeunes qui sont bien investis, qui ont des responsabilités dans l'église, dans les aumôneries, dans la pastorale des jeunes, dans les mouvements. Et puis d'autres diocèses ont fait le choix d'ouvrir très largement. Donc ça peut aussi toucher des jeunes un peu plus lointains ou un peu moins engagés, mais en tous les cas c'est des jeunes cathos bien de leur temps qui se sont beaucoup impliqués dans la préparation. Ce qui est marquant pour la préparation des JMJ en France, c'est que les équipes de préparation impliquent énormément les jeunes, donc c'est aussi un certain nombre de jeunes qui partent sont des jeunes en responsabilité dans la préparation des JMJ.
On sait qu'au Brésil, les mouvements et les communautés ont une grande place. C'est le cas aussi chez les pèlerins français qui partent à ces JMJ de Rio ?
En partie. Ceci dit, c'est vrai que, par exemple, par rapport au JMJ de Madrid, globalement, le pourcentage de jeunes qui partent avec des communautés par rapport à ceux qui partent avec les diocèses est plus faible. Mais on a quand même quelques groupes de communautés. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fait, beaucoup de jeunes en France, dans leur manière de vivre leur foi, ils expérimentent des tas de choses. Donc, un jour, ils sont avec une communauté, un autre jour, ils sont sur un événement diocésain. Ils ont pu partir à Madrid avec une communauté et ici, à Rio, ils vont partir avec un diocèse ou inversement. Donc, c'est assez c'est pour eux, entre guillemets.
Sœur Nathalie Bécard, responsable du service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations. Ces jeunes Français vont donc rencontrer les jeunes Brésiliens, des jeunes qui vont leur montrer la joie de la foi, qui vont leur faire découvrir un christianisme vécu avec grand enthousiasme, comme l'a souligné le cardinal Rilko, le président du Conseil pontifical pour les laïcs, dans une interview à Radio Vatican. Dans un monde aussi confus, où tant de certitudes s'écroulent, beaucoup de jeunes découvrent dans le Christ un ami à qui faire confiance, un guide sûr, cette roche sur laquelle ils peuvent construire leur propre existence, a-t-il en outre déclaré pour expliquer le succès des JMJ. Ils découvrent ensuite, dans l'Église, souvent présentée par les médias comme une institution froide et lointaine de l'homme, une bande d'amis qui les soutient sur le chemin de la vie, une vraie famille de dimension planétaire. Concernant le Brésil en particulier, ces JMJ seront l'occasion de présenter, selon le cardinal, les jeunes générations comme un bien commun et de mettre les jeunes au centre de chaque projet de développement. En ce moment, les jeunes latino-américains ont besoin d'un nouveau souffle d'espoir, un espoir que les JMJ pourront donner, a affirmé en outre le cardinal. Même l'Église du Brésil nourrit de grandes attentes envers les JMJ, souligne le président du Conseil pour les laïcs. La piété populaire affronte aujourd'hui le défi de l'invasion agressive des sectes. Elle doit donc être évangélisée en profondeur. C'est dans cette optique qu'est né d'ailleurs le grand projet de la mission continentale en Amérique latine, à l'intérieur duquel les jeunes jouent un rôle particulier. Les JMJ de Rio se présentent ainsi comme un don vraiment providentiel, considère pour finir le cardinal Rilko. Allez, on reste parmi les jeunes avec deux jeunes époux, Marie-Alix, 24 ans, et Mathieu, 25 ans. Nous vous en avons déjà parlé en tout début d'année quand ils se sont lancés dans un projet bien insolite intitulé « Batsoug Bensoug », ce qui veut dire en hébreu « épouse, époux ». Objet de cette aventure, parcourir l'Eurasie à la rencontre des couples au travers des grandes religions de ces contrées, à savoir le christianisme, l'islam, le bouddhisme et l'hindouisme. Partis le 14 janvier de Rome, ils ont traversé l'Allemagne, la République tchèque, la Hongrie, la Serbie, la Grèce, la Turquie, la Russie, la Mongolie et la Chine. Manuela Fidji, qu'ils avaient déjà interviewé, les a retrouvés par téléphone à Hong Kong avant qu'ils ne rejoignent le Cambodge, le Népal, le Tibet, le Vietnam, la Malaisie et l'Inde. Marie-Alix revient ainsi sur ses 5 premiers mois de voyage et sur les expériences les plus marquantes qui les ont jalonnées.
Tout d'abord, vraiment très important, ce que je dis, aucune généralité à faire, c'est vraiment que des rencontres personnelles, donc voilà, faut surtout pas qu'on croit que ce qu'on a vécu, c'est une généralité à faire sur l'islam ou sur l'orthodoxie, voilà, bien évidemment, c'est à chaque fois des rencontres qui sont en plus très personnelles. Alors du coup, nous, ce qu'on a retenu de l'islam en Turquie, et ce qu'on a, les gens qu'on a rencontrés, un imam, l'imam de Sultanahmet, de la grande mosquée de Sultanahmet, et un couple syrien, réfugié, c'est vraiment un rôle très défini dans le couple entre l'homme et la femme. L'homme qui doit vraiment répondre aux besoins matériels de sa femme, donc vraiment de manière financière. Et si la femme a un désir, l'homme doit lui offrir. Voilà, c'est vraiment ce qu'on nous a dit. Et quant à la femme, elle, son rôle est beaucoup plus dans l'éducation des enfants et la tenue de la maison. Voilà, un couple qui se définit déjà par ces rôles-là. Et puis ensuite, on a découvert que c'était pas forcément toujours des mariages d'amour. Un couple a mis l'accent à 100% sur l'amour et pour eux, c'était un mariage d'amour et c'était plus qu'important que l'amour soit central dans leur couple. Et un autre qu'on a rencontré et qui était pourtant très beau et qui semblait s'aimer, mais c'était un mariage arrangé par leur mère parce que ça se fait encore beaucoup dans la religion musulmane. Ça dépend évidemment des pays et des familles et des traditions.
La vision du couple et de la famille dans la religion orthodoxe, c'est aussi une réalité qu'il vous a été donné d'aborder puisque vous avez pu vous rendre également dans plusieurs pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, des pays donc de tradition orthodoxe.
Donc là, c'est surtout pour la Russie. C'était très intéressant. Donc on a rencontré beaucoup, beaucoup de couples orthodoxes avec qui on se sentait quand même assez proches au niveau de la foi. Il y avait cependant quelques différences, notamment une dont on parle beaucoup parce que c'est un peu la grande différence entre nous, c'est le divorce parce qu'eux, ils peuvent se remarier 3 fois. Le divorce est accepté. Donc on en parlait avec des prêtres orthodoxes qui nous disaient que quand même le mariage entre deux époux est entre guillemets pour la vie et enfin est normalement pour la vie. Et le but, c'est vraiment de se promettre fidélité et de s'engager sur toute la durée. Mais ils acceptent l'erreur humaine et du coup, c'est pour ça qu'ils peuvent accepter le remariage entre deux époux. Mais évidemment, ils ne mettent jamais l'accent sur ça et ce n'est pas conseillé par l'Église orthodoxe. Et puis après, on a appris tellement de choses que c'est difficile d'en faire un résumé au téléphone, mais les couples orthodoxes ont une notion très importante du carême, qui est beaucoup plus développée que chez nous catholiques. C'est un temps avant Noël, un temps avant Pâques et encore deux autres temps dans l'année. Et ça a un impact très fort dans leur vie, peut-être plus de famille, mais aussi de couple, car ça veut dire un régime alimentaire assez strict, pas non plus de relations intimes pendant tous ces jours de carême. Du coup, ils sont dans une démarche très spirituelle et qu'on a trouvée très belle, parce qu'évidemment tout ça, c'est pas pour des interdits ou pour dire ça c'est pas bien, ça c'est bien, mais plus pour toujours essayer de se rapprocher de Dieu et voilà, de remettre bien Dieu au centre de sa vie.
Une question peut-être plus générale, est-ce qu'au travers des religions que vous avez rencontrées, bouddhisme, orthodoxie, islam, est-ce que l'institution du mariage reste une chose très importante ou au contraire, est-ce que vous remarquez, comme en Europe de l'Ouest, comme en France par exemple, une certaine désaffection, une certaine indifférence envers le mariage ?
Il y a une chose qu'on peut juste détacher d'abord, c'est le bouddhisme. Le bouddhisme, il n'y a pas vraiment une institution du mariage, il n'y a pas du tout cette importance de la cérémonie ou de l'engagement, juste une notion de fidélité, donc c'est très très spécial le bouddhisme. Mais sinon, en règle générale, le mariage c'est toujours quelque chose d'important dans les pays qu'on a traversés, il y a toujours quand même cette notion très importante de l'engagement, du coup du oui et de la fidélité, des enfants, voilà, il y a toujours cette notion-là. Mais c'est vrai qu'on traverse des pays, je pense, tous en difficulté vis-à-vis de cet engagement, où énormément de divorces, on en voit beaucoup en Chine, aussi en Russie, on nous l'a beaucoup dit. Donc voilà, il y a toujours, comme en France, je dirais, beaucoup de divorces et beaucoup de ruptures et beaucoup de problèmes au niveau des couples.
Vous êtes ensuite allé en Chine, la Chine où la vision du couple et de la famille est marquée par la politique de l'enfant unique. Est-ce que c'est une chose à laquelle vous avez été confrontée ?
Plutôt, oui. On a presque appréhendé... pas que ce sujet, mais ça fait vraiment partie du très gros sujet pour le couple, la politique de l'enfant unique. Donc, il faut savoir que cette politique, elle est présente depuis 1976. Donc, en fait, c'est hyper récent dans un sens. Et souvent, les grands-parents qu'on a rencontrés ont 5 frères et sœurs, quoi. Donc, c'est très récent. Et en fait, le communisme et Mao a complètement réussi son job parce que dans les mentalités, c'est presque impensable aujourd'hui d'avoir plus d'un enfant. Même sans penser à la politique de l'enfant unique, à cette loi... Et pour des raisons démographiques, même si on n'en a jamais entendu parler, on n'a entendu que des raisons élitistes pour former un peuple plus éduqué. C'est plus un projet élitiste qu'un projet démographique, de ce qu'on a entendu, évidemment. Et en fait, les couples ont peur désormais d'avoir plus d'un enfant. Ça leur paraît impensable d'éduquer plus d'un enfant. Donc c'est très étrange comme situation. Et on a rencontré des exceptions, des familles catholiques chinoises, dont 2 avaient 3 enfants. Et c'est très, très dur pour elles. Déjà, elles ont dû faire plein de micmacs pour avoir ses 3 enfants, parce que sinon l'enfant n'est pas nationalisé. Et une fois que ces enfants sont mis au monde, c'est très dur encore, parce que même dans la rue, on les questionne quotidiennement, mais vous êtes fous, pourquoi vous avez 3 enfants? Vous pouvez pas éduquer 3 enfants, c'est presque pas naturel d'éduquer 3 enfants, voilà, il y a vraiment quelque chose qui est brisé pour nous dans le peuple chinois à ce niveau-là.
Les propos recueillis par Manuela à Fiji. En Égypte, une ONG locale, l'Initiative égyptienne pour les droits personnels, s'alarme d'une recrudescence des violences contre la minorité chrétienne copte du pays depuis la chute du président Morsi le 30 juin dernier. Elle exhorte ainsi les autorités par intérim à réagir au plus vite pour la protéger. L'ONG fait état de la mort de 4 coptes les 4 et 5 juillet dans le gouvernorat de Louxor en Haute-Égypte, victime d'actes de vengeance après le décès d'un musulman imputé à un chrétien. La police n'a pris aucune mesure pour protéger cette population alors que plusieurs maisons ont été encerclées, pillées et incendiées. Selon Ishaq Ibrahim, un des responsables de l'ONG, les Coptes paient le prix des discours enflammés contre eux de dirigeants islamistes et de partisans de l'ancien président qui les accusent d'avoir conspiré en faveur d'une intervention de l'armée pour renverser Mohamed Morsi. En Syrie, la ville d'Alep continue à être en état de siège. La zone de Souleymaniya et d'autres quartiers environnants ont été frappés ces derniers jours par des tirs de missiles et de mortiers qui ont provoqué des dizaines de morts. Les milices de l'armée libre syrienne et des groupes islamistes d'opposition, souvent en lutte entre eux, ont interrompu les voies de fuite qui permettaient jusqu'alors de quitter la ville et même de parvenir au Liban. Malgré la situation dramatique, les prêtres et les religieux qui œuvrent dans la cathédrale et dans la paroisse catholique de rite latin continuent de fournir des aides concrètes, tant matérielles que spirituelles, à la population. À Alep, Le pain et les denrées alimentaires de base manquent, alors que le gaz et l'essence ont atteint des prix exorbitants pour ceux qui sont restés dans la ville. Au Bangladesh, la police a tiré ce mardi matin sur une foule protestant contre la condamnation lundi d'un leader islamiste. Selon un bilan provisoire, il y aurait 2 morts. Lundi toujours, le chef spirituel du parti islamiste Jamaat al-Islami a été condamné à 90 ans de prison. Ses partisans ont alors provoqué des émeutes dans le sud-ouest du pays. Pour Jérémy Caudron, politologue, spécialiste du Bangladesh au Centre d'études de relations internationales à Paris, ces violences ne sont pas surprenantes, ce sont celles d'un parti qui tente de survivre.
Depuis le début de l'année 2013, on a déjà eu plusieurs manifestations extrêmement tendues qui ont tourné à des incidents très violents. Par ailleurs, il y a une répression policière vraiment importante qui tend encore plus la situation. Et globalement, à chaque nouveau verdict, si vous voulez, à chaque condamnation d'un des grands leaders de la Jamaat Islami, jugé selon le tribunal responsable de crimes de guerre en 1971, on peut s'attendre à des violences à chaque nouvelle décision du tribunal.
Pourquoi ces violences? Est-ce qu'elles font partie d'une stratégie?
Il n'y a pas réellement de stratégie du parti. Je pense que le parti est totalement en déroute en ce moment. Le but du parti au pouvoir actuellement, l'Awami League, qui est plutôt de tendance laïque, on va dire, était réellement de décapiter, d'éliminer complètement la Jamaat Islami de la scène politique bangladaise. Donc ce parti, le gouvernement, disons, s'y est attaché depuis qu'il est au pouvoir, depuis 2009. Et là, on arrive dans la phase finale, sachant que les prochaines élections générales approchent, elles sont prévues pour début 2014, et donc le gouvernement a voulu accélérer le processus de condamnation, enfin en tout cas de jugement de ces criminels de guerre, et surtout se débarrasser clairement de l'opposition islamiste. Donc c'est plutôt une réaction un peu d'ailleurs d'un parti en déroute que l'on aperçoit, et également une expression des tensions dans la vie politique actuelle, sachant que chaque parti, les deux grandes tendances, que sont les sécularistes et laïcs, et de l'autre côté les islamistes, sont mobilisés et cherchent à défendre leur espace politique.
Pour simplifier donc, on a d'un côté les laïcs, de l'autre les islamistes. Est-ce qu'il y a une consonance religieuse dans ce conflit?
Je crois que c'est réellement politique. La Jamaat Islami, bon, malgré son programme assez clair là-dessus, et son idéologie clairement favorable à la construction d'un État islamique, la Jamaat Islami n'a jamais réellement réussi à mettre en place ses objectifs. D'ailleurs, par exemple, une loi sur le blasphème, ou l'introduction de quelques parties de la charia dans la loi du pays. La Jamaat Islami n'a jamais réussi réellement à transformer son idéologie en véritable programme politique applicable. Donc il n'y a pas cette tendance à la confessionnalisation des institutions du pays, si vous voulez. C'est plus vraiment une stratégie pour survivre en tant que parti, sachant que la Jamaat Islami est tout de même un parti assez minoritaire, peu populaire au Bangladesh en vertu de son passé pendant la guerre d'indépendance. C'est encore un parti qui est vu comme un parti de collabos, qui a lutté contre l'indépendance du Bangladesh aux côtés de l'armée pakistanaise. Donc voilà, le parti est toujours aussi entaché, aussi stigmatisé, et pour l'instant, ce qu'il cherche à faire, c'est essayer de garder la place qu'il avait dans le système politique, qui correspond à peu près à, je dirais, 10% du vote populaire.
Vous parlez de survie, les dirigeants sont condamnés, le parti doit donc se renouveler.
Oui, tout à fait, ce qui ne va pas être évident du tout, parce que le gouvernement s'attache réellement à, comme je le disais, à décapiter son leadership. Donc les plus grands leaders du parti sont soit en prison, soit condamnés à mort. Il y a un nouveau leadership qui peut s'exprimer au sein de la branche étudiante du parti. Mais bon, ça mettra quand même quelques temps à aboutir et à émerger. Donc jusqu'à présent, c'est plutôt un parti en déroute. Cela dit, ce parti est tout de même capital pour l'opposition, pour le grand parti d'opposition qu'est le BNP, Bangladesh Nationalist Party, qui est un parti plutôt conservateur, qui traditionnellement s'est allié avec les islamistes. Donc la Jamaat Islami est un allié crucial pour le BNP dans la perspective des prochaines élections.
Des propos recueillis par Antonino Gallofaro. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce magazine. Merci de votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure.